Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Bonjour.
Délégué général de La République En Marche, député de Paris. Un mot sur la COP26 et l'actualité de la nuit, dans l'attente d'un document final, avec un bilan qui semble-t-il sera mitigé. Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il voulait prendre le leadership à cette COP26. Est-ce que la France n'a pas tout de même un peu raté le coche à cette grande réunion?
Moi, ce que je crois, c'est que la France et aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique, qu'à chaque fois, elle est au rendez-vous de ses engagements.
Où est-ce qu'elle était aux avant-postes à la COP26?
Par exemple, sur des engagements de solidarité. Vous savez qu'on veut consacrer 100 milliards d'euros chaque année à pouvoir justement accompagner les pays en développement pour faire cette transition écologique. La France a annoncé qu'elle augmentait son propre engagement à hauteur de 7 milliards d'euros pour montrer l'exemple dans le monde pour prendre des engagements forts. Ça, c'est un exemple parmi d'autres pour sortir des énergies fossiles. La France est un des premiers pays au monde qui a voté une loi interdisant l'exploitation d'hydrocarbures sur son propre territoire. Sur beaucoup de sujets, je pense par exemple aussi à la protection des espaces protégés. La France est un des pays au monde qui aura avancé le plus dans ce quinquennat sur la protection justement de toutes ces surfaces qu'il nous faut absolument protéger. Donc sur un certain nombre de sujets, la France est aux avant-postes, mais il faut, c'est vrai, vous avez raison, entraîner nos partenaires, entraîner les grands pays qui sont les pays les plus pollueurs dans le monde. Et le combat n'est pas totalement gagné. Après, moi, je me méfie des conclusions qui sont trop binaires sur ce type de rendez-vous.
Pour l'instant, on les attend, les conclusions.
Et les conclusions définitives, on les attend. Il y a des avancées. Je rappelle quand même que depuis la COP de Paris, fameuse COP21, les objectifs en matière de réchauffement ont progressé. On était sur des trajectoires qui nous entraînaient à 4 degrés à l'époque. On est en train de revenir sur des trajectoires plutôt autour de 2 degrés et demi. Maintenant, quand on se dit ça, est-ce que c'est suffisant? La réponse est non, bien sûr, c'est insuffisant. L'objectif, c'était 1,5, et c'est déjà beaucoup. Donc, il reste énormément, énormément de travail.
La France est aux avant-postes de la politique écologique, dites-vous. Cela dit, la France n'est pas parvenue une seule fois à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, contrairement aux objectifs de la COP21. Là non plus, elle n'est pas aux avant-postes.
Vous savez, avec ce que nous faisons depuis le début du quinquennat, nous sommes exactement en train d'engager cette trajectoire. Dans ce quinquennat, nous aurons fermé, ce sera d'ici 2023, toutes les centrales à charbon du pays. Je le disais, interdit toute exploitation d'hydrocarbures. Multiplié par 5 l'énergie solaire dans ce pays, par 3 l'énergie éolienne. Ça, ce sont des actes, ce sont des changements en actes. C'est la France, notre pays, qui le fait. Donc, je veux bien qu'on se flagelle toute la journée sur ce qui n'est pas fait, les rendez-vous manqués, etc. En revanche, il y a beaucoup de choses qui avancent. Donc, on doit faire plus, plus vite. Je pense qu'on a une opportunité, en sortant de cette crise, justement, avec les plans de relance, avec des plans d'investissement pour bâtir des nouvelles filières, de le faire. C'est justement l'engagement du président de la République. Mais il faut accélérer et maintenir cette trajectoire.
L'un des engagements de la France, c'est la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, Emmanuel Macron a annoncé mardi soir dans son allocution plus de renouvelables, mais aussi de nouveaux réacteurs nucléaires. Pourtant, dans l'étude qui a été remise par RTE à la fin du mois d'octobre, il y avait 6 scénarios jugés crédibles pour atteindre cette neutralité carbone. Il y en avait un sans nucléaire. Emmanuel Macron l'a écarté mardi soir, il n'a pas expliqué pourquoi. Est-ce que vous savez pour quelle raison?
Vous savez, dans ce rapport même, il est indiqué que le scénario 100% renouvelable est un scénario qui est extrêmement difficile à atteindre.
Mais possible,
non seulement
dit RTE.
Avec quand même des enjeux à la fois de pression sur le réseau, d'occupation des sols, si nous voulions développer, par exemple, de l'énergie solaire en quantité suffisante pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, avec des sujets sur les terres agricoles. Et donc, ce scénario n'était pas jugé le plus crédible pour pouvoir parvenir à cet objectif zéro carbone. Moi, je crois résolument que pour réussir cet objectif-là, tout en augmentant nos consommations d'électricité, parce que c'est ce que montre ce rapport, la consommation d'électricité, elle va augmenter. Et d'une certaine façon, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va consommer moins d'énergie fossile. À côté, moins de pétrole, moins de gaz, moins de charbon, je le disais à l'instant. Eh bien, pour arriver à cet objectif, il faut à la fois les énergies renouvelables, de façon extrêmement volontariste, que chacun qui écoute ait en tête que c'est une multiplication pour le coup par 4 à 7 pour l'énergie solaire, par exemple, qu'il va falloir engager. C'est ce que nous sommes en train de faire, et et l'énergie nucléaire, parce que c'est un atout pour la France aujourd'hui. C'est une énergie qui est aujourd'hui zéro carbone.
Deux nouveaux réacteurs nucléaires, a dit le président. Est-ce que c'était à lui de trancher seul cette question à quelques mois de la présidentielle?
Il a dit que nous allions
au cœur d'une allocution consacrée à la situation Covid.
Comme d'une allocution qui donnait une perspective pour le pays, qui partait évidemment de la situation sanitaire, parce que beaucoup de choses sont conditionnées à ça. Mais je crois qu'à chaque fois que le président de la République s'exprime, il est bon qu'il donne un cap sur les prochains mois, mais aussi sur les prochaines années. C'est ce qu'on attend d'un président de la République. Et en revanche, en l'occurrence, il a engagé, justement, un chemin pour atteindre cet objectif zéro carbone. Mais pas du tout. Vous voyez bien que ce rapport RTE que vous venez de mentionner à l'instant, c'est un rapport qui a été justement demandé par le gouvernement pour donner de la lisibilité sur les différents scénarios, qui a permis d'auditionner 4000 acteurs. Il n'y a jamais eu un rapport comme ça dans l'histoire du pays sur la situation énergétique et dégager des chemins devant nous. Donc vous voyez bien qu'on n'avance pas seul, on le fait justement en concertant, en écoutant les scientifiques, parce que c'est comme ça, moi je considère qu'on pourra bâtir un chemin crédible. Et le président de la République, ensuite, il prend des arbitrages politiques, mais je crois que c'est ce que les Français attendent de lui.
Alors, relancer la filière nucléaire en France, d'accord. Cela dit, le patron d'EDF se demande avec quel argent, puisque l'entreprise d'électricité est très endettée. Est-ce que c'est l'État qui doit mettre la main au porte-monnaie pour relancer cette filière nucléaire?
Vous savez, je crois que sur les deux énergies, types d'énergie dont nous sommes en train de parler, énergie renouvelable et nucléaire, cela va nécessiter des investissements qui sont extrêmement importants. Moi, je crois que la puissance publique doit réaliser ces investissements. Pourquoi ? Parce que, en réalité, il s'agit là de notre capacité à maîtriser notre destin, tout simplement. Il s'agit de souveraineté énergétique. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, nous serons dépendants de nos voisins plus ou moins amicaux, je pense au gaz russe, par exemple, et nous subirons les conséquences à la fois sur les prix, pour les ménages, vous voyez bien les conséquences sur le pouvoir d'achat, on l'a vu ces dernières semaines, et d'un point de vue géopolitique. Et donc pour ces deux raisons-là, moi je souhaite que la France, que notre continent, l'Europe, retrouve sa souveraineté et donc fasse des investissements. On est dans un moment, il faut en prendre conscience, qui est un moment inédit dans l'histoire peut-être du monde, où après cette crise, tous les pays du monde font des plans de relance en même temps. Ça nous donne des opportunités justement pour pouvoir changer de trajectoire. Eh bien, faisons-le. C'est le moment exactement pour faire ces investissements.
On va refermer le chapitre électrique avec EDF qui ne coupera pas le courant des particuliers en cas de factures impayées à partir d'avril prochain. En revanche, EDF va réduire la puissance tout de même d'électricité dans ses foyers. Reste la question maintenant des autres opérateurs. Est-ce qu'ils feront de même ou pas? Est-ce qu'il faut une loi, je m'adresse aux députés de Paris, est-ce qu'il faut une loi pour finalement forcer les autres fournisseurs à suivre le même mouvement qu'EDF?
Écoutez, d'abord, vous répondre clairement. Moi, je pense que c'est une bonne décision que EDF a prise. Ça va permettre à des gens qui ont des difficultés à régler des factures de pouvoir continuer à avoir accès au minimum. Malgré tout, ces coupures, elles étaient extrêmement brutales. On pouvait pas recharger un téléphone portable pour peut-être justement pouvoir régler une situation administrative. Donc, c'est une bonne décision. Est-ce qu'il faut que les autres opérateurs suivent cette décision? Je le crois, je le pense. Donc, laissons d'abord la possibilité aux uns et aux autres de prendre ces décisions-là, et nous verrons si le législateur a besoin de passer par derrière, si je puis dire.
Stanislas Guérini, vous parliez du gaz russe qui approvisionne l'Union européenne. Je voudrais qu'on parle de la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. L'Union européenne accuse la Biélorussie de faire venir par milliers des Libanais, des Syriens, des Irakiens, des migrants pour faire pression
des Kurdes,
pour faire pression sur les frontières extérieures et à l'est de l'Europe. Est-ce que vous voyez derrière cette manœuvre supposée de Loukachenko, le dictateur de Biélorussie, la main de Moscou et de Vladimir Poutine?
Il est évident qu'il y a un lien entre le régime aujourd'hui biélorusse et la Russie. C'est pas un scoop que je suis en train de vous livrer là. Vous disiez que l'Union européenne accuse de faire venir par avion des migrants qui sont utilisés comme de la chair à canon. C'est pas une accusation en l'air. Ce sont des faits qui sont avérés, objectivés. Donc c'est terrible. C'est un crime, en réalité, qui est en train de se passer à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, qui nécessite que l'Europe intervienne de façon extrêmement vigoureuse. Je crois qu'il est temps pour notre continent de prendre son destin en main, typiquement sur ces sujets-là, sur les questions des frontières. Il y a une instrumentalisation évidente, digne d'un État voyou. C'est pas surprenant. Vous savez que le régime de M. Loukachenko n'a pas été reconnu par justement l'Union européenne. Des élections n'ont pas été démocratiques. Et depuis, il y a des tentatives de déstabilisation. Le président de la République va rencontrer Vladimir Poutine, justement, pour parler avec lui, les yeux dans les yeux, de ces sujets-là. Parce que, oui, il faut faire un lien entre aujourd'hui la Russie et la Biélorussie.
Est-ce qu'il faut accueillir ces migrants qui aujourd'hui essayent d'entrer en Pologne et qui pour certains meurent de froid à cette frontière ?
Mais vous avez raison de dire qu'il y a d'abord un sujet humanitaire, il y a des gens qui meurent. Donc quand il y a des gens qui meurent, il faut aller les sauver. Il y a quelques temps, il y avait eu les mêmes sujets à la frontière de la Lituanie. Et l'Union européenne, avec les forces de Frontex, était allée justement aider notre partenaire européen. D'abord pour mettre à l'abri les gens qui étaient là. Je crois que même si nous avons des désaccords avec la Pologne, il faut qu'il y ait de la coopération, il faut que la Pologne accepte que nos forces Frontex européennes puissent aller à la frontière et puissent traiter cette situation. Ça ne veut pas dire accueillir tout le monde, mais d'abord commencer par la mise à l'abri la plus évidente
et ensuite,
des gens qui sont aujourd'hui. Ensuite,
on les accueille, on organise leur retour dans leur pays d'origine.
Ensuite, examiner chaque situation comme nous le faisons systématiquement, dans le respect de nos valeurs et de notre droit, c'est-à-dire en examinant cas par cas la situation de demande d'asile, puisqu'il s'agit de demandeurs d'asile, sans oublier quand même, on mentionnait les nationalités qui étaient justement envoyés, je ne peux pas trouver d'autres mots aujourd'hui à la frontière, je pense aux Kurdes, c'est quand même les Kurdes qui nous ont défendus contre Daesh. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire le lien entre ces différents sujets et se souvenir de ce que nous leur devons.
Le dossier Covid avec l'Europe qui subit une cinquième vague, pour l'instant beaucoup en Allemagne, beaucoup aux Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique également. La France est en train de se regarder, de décompter les cas de Covid. Est-ce qu'il va falloir prochainement, très prochainement, réinstaurer selon vous de nouvelles restrictions ?
Moi, je crois d'abord qu'il faut réussir pleinement cette campagne de rappel. C'est la clé. Maintenant, nous avons suffisamment de recul sur le vaccin pour se dire que c'est le vaccin associé au pass sanitaire qui nous a permis de traverser cette
74% de personnes
oui,
vaccinées.
Oui, nous sommes maintenant un des pays les mieux vaccinés au monde et on peut mesurer le chemin qui a été parcouru collectivement. De là
ça
où
dit
on
quand on voit ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Ouais.
Les Néerlandais ont pris des mesures
pas trop mal vaccinés
très strictes
non plus,
et 82% de la population est vaccinée. Ils en sont à 16 000 nouvelles contaminations par jour.
Vous avez raison.
Le vaccin ne suffit pas.
Vous avez raison. Et ça montre que, évidemment, nous ne devons pas relâcher notre attention. Nous avons eu des débats à l'Assemblée nationale il y a à peine 10 jours où nous défendions, nous, la majorité présidentielle, la possibilité de garder les outils de lutte contre le virus que nous avons, c'est-à-dire notamment le pass sanitaire. Vous vous souvenez un peu de la teneur des débats à ce moment-là, de ce que disaient nos oppositions, de vouloir, en gros, arrêter toute boîte à outils pour pouvoir lutter contre le virus. Ben, la bonne position, c'est celle-là. Le président de la République a indiqué à la fois l'enjeu absolu de pouvoir se faire vacciner. Je note que sa parole est suivie. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont une dose de rappel depuis, qui se sont en tout cas pris rendez-vous pour avoir une dose de rappel depuis l'allocution du président de la République. Il faut absolument continuer dans cette voie. Il faut garder le pass sanitaire, quelques temps encore, je ne dis pas vitam aeternam, mais c'est un outil qui est absolument nécessaire pour lutter contre le virus.
Campagne de rappel pour les plus de 65 ans vaccinés depuis 6 mois et 5 semaines. Donc s'ils veulent garder leur pass sanitaire au-delà du 15 décembre, il faudra cette troisième dose. Est-ce qu'on peut savoir, Stanislas Guérini, sur quelle base, sur quel document scientifique Emmanuel Macron s'est basé pour prendre cette décision ? Parce que, par exemple, l'Académie nationale de médecine ne la préconisait pas, bien au contraire.
D'abord, vous savez que l'Académie nationale de médecine, c'est pas la haute autorité de santé. Hein, c'est,
non, mais je crois pas que la haute autorité de santé
n'ait été
consultée.
La haute autorité de santé a été saisie. Il y a un conseil justement sanitaire avec le professeur Fischer qui a indiqué de façon extrêmement claire. Et les
ça, c'est le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
Vous avez raison. Mais je crois que
c'est celui-là qui a été saisi.
Le vaccin dont on est en train de parler qui indique de façon extrêmement claire que oui, il y a une baisse d'immunité pour les personnes âgés notamment, qui les mettent en danger.
Ce document n'est pas public.
Et donc,
cet avis n'est pas public.
En tout cas, dans le cadre du Conseil sanitaire, du Conseil de défense, ce sont des documents qui sont à disposition de ceux qui doivent prendre des décisions. Moi, je veux bien écoutez, qu'on remette en cause la parole des scientifiques qui disent il y a une baisse de l'immunité au bout de quelques mois.
Non, mais la transparence ne peut pas nuire.
La transparence ne nuit jamais. Vous savez, ça fait 11 débats qu'on a à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là, où je crois qu'il y a quand même une transparence sur les informations qui sont à notre disposition. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut écouter les scientifiques. Quand les scientifiques disent qu'effectivement, il y a une baisse de l'immunité et que des gens qui se sont fait vacciner, qui ont eu deux doses de vaccin, sont en danger d'une certaine façon, parce que ce sont eux qui sont les plus âgés, qui sont dans le plus fort risque, eh bien il faut prendre nos responsabilités, c'est ce que nous faisons.
Stanislas Guérini, vous venez de parler de transparence. À propos de transparence, Emmanuel Macron est accusé de faire un peu double jeu, de faire campagne sans faire campagne, de distribuer l'argent à tout va. Ne vaudrait-il pas mieux pour lui, et pour le débat démocratique peut-être, qu'il se déclare, et assez prochainement?
Vous savez, c'est cette attaque-là, je crois qu'elle est vieille comme la Ve République. À peu près à chaque fois qu'un mandat se termine, on dit que le président de la République a en tête d'être candidat. Moi, je crois que le président de la République assume ses responsabilités en gouvernant jusqu'au bout. C'est-à-dire en prenant des décisions pour le court terme et en projetant le pays. Qui comprendrait qu'au moment où nous sortons de la crise, où on doit prendre des décisions fondamentales, nous avons parlé d'énergie, nous allons parler de géopolitique, nous pourrions parler de rapport au travail, des réformes que nous sommes en train de mener, qui comprendrait que le président de la République se taise et arrête son action, arrête de prendre des décisions.
Vous n'êtes pas pressé de savoir si décisions... Emmanuel Macron sera candidat ou pas?
Moi, j'ai pas de langue de bois ce matin. Je souhaite qu'il soit candidat. Je crois qu'il est le mieux placé pour présider aux destinées de notre pays pour 5 ans encore. Donc vous voyez, je me cache
dans
pas
combien de temps
derrière,
vous aimeriez qu'il
derrière
se déclare
mon petit doigt.
Dans
mais
combien de
je
temps
crois que ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas nécessaire que le président de la République se déclare. Je crois qu'il est nécessaire qu'il continue à gouverner, le plus longtemps possible, parce que notre pays en a besoin, parce qu'on est dans un moment où il y a des grandes échéances, des grands embranchements, des grands choix à faire. Nous aurons bientôt la présidence française de l'Union européenne.
Janvier.
C'est un moment qui est capital, là aussi, pour notre pays, mais aussi pour notre continent. Ah, je crois qu'il est bon que le président de la République française soit pleinement président de la République pour aborder cette échéance.
Stanislas Guérini, vous êtes délégué général de La République En Marche. Vous travaillez toujours au lancement d'un grand mouvement pour soutenir le chef de l'État, au cas où il serait candidat à sa réélection. Ce que vous souhaitez?
Oui, pour cela... Et pour l'avenir aussi, je crois que...
Et dans quel délai?
Ce mouvement d'unification des forces de la majorité présidentielle, il est utile d'abord, sans ambiguïté, pour nous rassembler derrière le président de la République. Je l'ai toujours souhaité, de la façon la plus large possible, avec tous les acteurs de la majorité présidentielle. Mais il est utile aussi pour faire en sorte que cet espace politique qui a émergé avec l'élection d'Emmanuel Macron perdure dans le pays.
Ça traîne, c'est dur à faire cette alliance?
Non, nous avons indiqué que nous voulions le faire d'ici la fin de l'année. Eh bien, je le souhaite et je le crois possible d'ici la fin de l'année.
Stanislas Guérini, et d'ailleurs vous traversez la France, pas mal de villes, je crois que vous serez à Bordeaux je crois aujourd'hui, pour justement prêcher la bonne parole dans cette perspective.
Tout à fait.
Merci Stanislas Guérini,
merci
député de La République En Marche de Paris et délégué général de La République En Marche. Merci et bonne journée.